Vous écoutez, on lit pour vous.
Deux fois plus de départs d'enseignants en 10 ans au Québec, toujours peu de suivi. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir. Les départs annuels d'enseignants ont plus que doublé au Québec au cours de la dernière décennie. Or, si les causes sont variées, elles sont toujours mal documentées par les centres de services scolaires, CSS, en raison du gel d'embauche dans leurs services de ressources humaines, a appris Le Devoir. Dans le réseau public, de 2137 au cours de l'année scolaire 2013-2014, le nombre de départs d'enseignants, tous motifs confondus, a connu depuis une hausse quasi constante pour atteindre 4519 en 2022-2023, indique des données obtenues par Le Devoir en vertu d'une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Éducation. Ces données concernent tous les membres du personnel enseignant, à l'exception des suppléants, dont les départs n'ont pas été inclus dans les informations fournies, précise le ministère. On compte des dizaines de milliers d'enseignants suppléants au Québec, et leur nombre a augmenté ces dernières années. Le problème est en train d'augmenter. Parmi les départs comptabilisés se trouvent principalement des cas d'enseignants partant à la retraite ou démissionnant de leur poste. Le nombre de démissions a ainsi atteint 2029. En 2022-2023, la plus récente année pour laquelle des données sont disponibles à Québec, contre 1953 l'année précédente. Une partie de ces démissions sont le résultat de mouvements de personnel d'un CSS à un autre. On rapportait par ailleurs 67 congédiements d'enseignants cette même année, une légère hausse par rapport aux 59 notés en 2021-2022. 4519. C'est le nombre d'enseignants qui ont quitté leur emploi en 2022-2023. Clairement, on s'en va dans la mauvaise direction. Le problème est en train d'augmenter, déplore le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSECSQ, Richard Bergevin, qui craint que la lourdeur et la complexité de la tâche comptent parmi les causes qui incitent des enseignants à jeter l'éponge. Le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, rappelle pour sa part que le nombre d'enseignants au Québec a augmenté de 17 % entre 2018-2019 et 2022-2023 afin de répondre à la croissance de la population étudiante. Le nombre de départs à la retraite d'enseignants dans le réseau public devrait, pour sa part, passer d'environ 2100 par année entre 2019-2020 et 2023-2024, à 2600 dans les 5 prochaines années, selon les prévisions du ministère. C'est justement pour cette raison qu'on ajoute des incitatifs pour les retraités ou futurs retraités afin qu'ils reviennent prêter main forte comme suppléants, notamment, ajoute le cabinet. Entrevue de départ. Les motifs précis des départs d'enseignants ne sont cependant pas compilés à l'heure actuelle par le ministère, qui ne comptabilise ceux-ci que dans quelques vastes catégories, a constaté Le Devoir. On ignore ainsi précisément quelle part représentent les enseignants qui quittent leur poste pour aller travailler dans un autre CSS, ni quelle part représentent ceux qui décident, par exemple, d'aller enseigner dans une école privée, ceux qui vont à l'extérieur de la province, ou encore ceux qui changent de carrière. Tous ces cas de figure sont considérés comme des démissions, sans plus. On ne sait pas vraiment pourquoi ces gens partent, confirme Mylène Leroux, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Il serait pourtant important d'avoir ces informations afin de pouvoir s'attaquer à la pénurie d'enseignants, selon elle. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a demandé le 30 août 2024 aux directions générales des CSS et des commissions scolaires de la province de procéder à des entrevues de départ avec leurs enseignants démissionnaires. L'objectif? Mieux connaître les raisons qui les poussent à abandonner leur emploi. Or, le 1er novembre 2024, le Conseil du Trésor a imposé un gel des embauches dans la fonction publique qui, dans le milieu de l'éducation, s'applique au personnel qui ne donne pas de service direct aux élèves. Il concerne donc, notamment, les employés des ressources humaines. Cette situation fait en sorte que les centres de services scolaires ne sont pas en mesure de procéder systématiquement à des entrevues de départ pour chaque membre du personnel, dont les enseignants, confirme au Devoir la responsable des communications de la Fédération des CSS du Québec, Catherine Roy. Dans ce contexte, les ressources humaines débordées privilégie les activités de recrutement et les entrevues de sélection au détriment de celles qui sont destinées aux employés démissionnaires, explique-t-elle par courriel. C'est très variable, d'un CSS à l'autre, la façon dont on gère les motifs de départ, constate pour sa part la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. Ça me semble ni reconnu ni valorisé, ajoute-t-elle, au sujet des entrevues de fin d'emploi. Un seau troué. Or, multiplier les efforts de recrutement, notamment en misant sur un nombre croissant d'enseignants non légalement qualifiés, sans s'intéresser aux raisons qui poussent un certain nombre à jeter l'éponge, c'est comme remplir une baignoire sans mettre de bouchon, constate Geneviève Sirois, professeure en gestion scolaire à la TELUC, qui trouve préoccupant le manque de données disponibles sur les motifs de départ des enseignants. Joint par le Devoir, les trois centres de services scolaires francophones de Montréal ont indiqué miser sur des entretiens téléphoniques avec leurs enseignants démissionnaires pour documenter les raisons de leur départ et écouter leurs recommandations afin d'améliorer la rétention du personnel. Le CSS de Montréal précise qu'il ne mène ses entretiens qu'avec ceux qui donnent suite aux messages que leur envoie l'organisation à ce sujet. Les informations qu'il obtient ainsi sont ensuite utilisées pour adapter les pratiques de gestion des ressources humaines et renforcer la rétention des talents, indique le CSS. L'organisation constate d'ailleurs que l'insatisfaction à l'égard du salaire ou des conditions de travail est le principal motif invoqué par ces employés démissionnaires, tout corps d'emploi confondu. Les déménagements ailleurs au Québec ou à l'extérieur de la province, ainsi que les changements de carrière, suivent. Le CSS Marguerite Bourgeois affirme pour sa part qu'une majorité de ces enseignants démissionnaires partent pour se rapprocher de leur domicile et poursuivent leur carrière de pédagogue dans une autre ville ou région du Québec. le CSS de la Pointe de l'Île, associe lui aussi le principal motif de démission de ses enseignants à ses déménagements. Le CSS Marie-Victorin, sur la rive sud dans la région de Montréal, de même que celui de Laval, n'ont, quant à eux, pas été en mesure de fournir une liste des principaux motifs de départ de leurs enseignants, ne disposant pas encore de données à ce sujet. Des pratiques à uniformiser. Conscient que les entrevues de départ sont menées de façon inégale dans le réseau scolaire en ce moment, le ministère travaille sur un outil qui permettra d'uniformiser la pratique dans tous les CSS, en collaboration avec la fédération qui les représente, confie le cabinet de Bernard Drainville au Devoir. On est conscient qu'il y a des défis, mais si on veut retenir davantage nos enseignants, on doit connaître les raisons de leur départ. Ce sont les CSS qui seront gagnants, en fin de compte, ajoute le cabinet. C'était 2 fois plus de départs d'enseignants en 10 ans au Québec, toujours peu de suivi. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir.
Trump à l'assaut d'une référence mondiale de la recherche scientifique, un texte d'Alexandre Shields paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement de Donald Trump a commencé ses attaques contre l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, une référence mondiale en recherche scientifique qui collabore depuis des décennies avec le Canada, notamment pour la protection des milieux marins. Avec ses 12 000 employés et son budget annuel de plus de 5 milliards de dollars, la NOAA ratisse large en matière de recherche scientifique sur la crise climatique, l'atmosphère, les milieux marins, les pêcheries, la biodiversité et l'Arctique, en plus de gérer le Service de prévision météorologique américaine et le Centre national des ouragans. Sans oublier les très nombreuses collaborations internationales avec des gouvernements et des scientifiques. Donald Trump n'a pas encore clairement énoncé ses objectifs en ce qui concerne la NOAA, lui qui a chargé Elon Musk de sabrer le budget du gouvernement, mais plusieurs signaux laissent présager des reculs majeurs dans le domaine de la science et de la protection de l'environnement, mais aussi de la collaboration avec les autres pays. Selon des informations publiées d'abord par CBS News, des employés ont été informés au cours des derniers jours d'un objectif de réduction de 50% du personnel de l'agence, mais aussi de compression budgétaire substantielle. Le président a d'ailleurs placé un proche, Neil Jacobs, à la tête de la NOAA. Ce dernier avait déjà dirigé l'agence de façon intérimaire lors de la première présidence de Donald Trump. Il avait alors notamment tenté de convaincre des experts du service météorologique de modifier leurs prévisions sur la trajectoire de l'ouragan Dorian afin de s'aligner sur les informations mensongères publiées par Trump sur le réseau social Twitter devenu X. Il y avait dit, à tort, que l'ouragan frapperait l'Alabama. Dans la foulée de la nomination de Neil Jacobs, l'agence gouvernementale dirigée par l'homme d'affaires multimilliardaire Elon Musk s'est présentée aux bureaux principaux de la NOAA. Objectif : prendre le contrôle du système informatique de l'agence scientifique créée sous la présidence du républicain Richard Nixon en 1970. Depuis, plusieurs pages du site de l'institution apparaissent comme « suspendu pour maintenance », a indiqué à France 24 le scientifique Andrew Rosenberg, un ancien employé de la NOAA. Climat de peur. Les cas concrets de directives inquiétantes pour la recherche scientifique se multiplient déjà et règne au sein de l'agence un sentiment général de peur, a indiqué au Devoir une source bien au fait de la situation. Je m'attends à ce qu'on réprime la recherche sur le climat, a affirmé un employé au quotidien britannique The Guardian. les gens sont à mi-chemin entre l'inquiétude et la terreur. La NOAA n'a pas répondu à nos questions. Une autre mesure prise rapidement par le gouvernement Trump cible directement la collaboration scientifique internationale. Selon les informations relayées de façon anonyme par des employés à différents médias, la direction a imposé une directive pour stopper les communications avec les partenaires de l'agence ailleurs dans le monde, le temps de mener une révision de ces collaborations qui concernent notamment la lutte contre la pêche illégale en haute mer, la science climatique et le suivi des espèces migratrices. Représentant démocrate de l'État de New York à la Chambre des représentants depuis 2009, Paul Tonko a qualifié cette mesure de « bâillon ». Vous écoutez « Trump à l'assaut d'une référence mondiale de la recherche scientifique », un texte d'Alexandre Sheeds paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Le Canada entretient une relation de collaboration de longue date avec la NOAA, explique Pêche et Océans Canada, MPO, dans une déclaration écrite en réponse aux questions du Devoir. En tant qu'organisation engagée à prendre des décisions fondées sur des données probantes et à adopter des approches collaboratives pour garantir la sécurité et la conservation de nos océans, nous accordons une grande valeur à nos partenariats internationaux, la sauvegarde de nos eaux et de nos ressources océaniques pour les générations futures nécessite une approche qui dépasse souvent les frontières. Quels seraient les impacts potentiels de la fin de la collaboration avec la NOAA pour le Canada? Le ministère n'a plus rien à partager sur cette affaire, a simplement répondu MPO. En empêchant le personnel de la NOAA d'interagir avec ses homologues internationaux, les États-Unis manquent à leurs efforts pour réduire les prises accessoires, empêcher le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement en produits de la mer et lutter contre la pêche illégale, dénonce John Osvar, directeur de la campagne Océan pour Greenpeace États-Unis, en réponse aux questions du Devoir. Trump et les baleines. Une mesure prise par le gouvernement Trump pourrait par ailleurs avoir des impacts sur une espèce en voie de disparition qui fait l'objet d'une collaboration scientifique entre le Canada et les États-Unis, la baleine noire de l'Atlantique Nord. La NOAA pilote en effet le Take Reduction Team, TRT, une structure qui a pour mandat de trouver des solutions pour réduire les impacts des pêcheries commerciales sur les cétacés et principalement sur ceux qui sont menacés. Dans le cas des baleines noires, les empêtrements sont un véritable fléau pour l'espèce qui compte à peine 370 individus. L'équipe du TRT en place pour l'Atlantique compte une soixantaine de personnes, tant des scientifiques que des pêcheurs et des écologistes. Or, des rencontres prévues dans les prochaines semaines ont été annulées par la voie d'un courriel envoyé cette semaine, sans plus de précision. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation, indique seulement un extrait du courriel obtenu par Le Devoir. Spécialiste du fonctionnement des écosystèmes et des mammifères marins, et notamment de la baleine noire, Lynn Morissette se dit très inquiète des orientations imposées par le gouvernement Trump à la NOAA. La protection des espèces en péril passe par la collaboration entre les pays et entre les différents acteurs. C'est d'autant plus vrai avec les baleines qui ne connaissent pas les frontières entre le Canada et les États-Unis. Si on cesse de collaborer, on retournera en arrière. Selon elle, l'historique de recherche et de conservation de l'agence américaine est irremplaçable et essentiel pour le Canada, sans compter les moyens financiers dont dispose la NOAA. Directrice de campagne pour Oceana Canada, Kim Hensley, rappelle par ailleurs que la protection des mammifères marins est inscrite depuis 1972 dans le Marine Mammal Protection Act, MMPA, une législation qui oblige notamment la mise en place de mesures pour réduire les risques que représente l'industrie de la pêche pour les mammifères marins. Un pays qui ne respecte pas le MMPA peut se voir refuser d'exporter des produits de la pêche vers les États-Unis. À la suite du décès de 12 baleines noires dans les eaux canadiennes en 2017, le Canada avait dû mettre en place dès 2018 des mesures saisonnières de ralentissement des navires et des fermetures de zones de pêche dans le golfe du Saint-Laurent en cas de présence de baleines noires. Ces mesures sans précédent avaient été prises pour respecter les dispositions du MMPA afin de préserver l'accès à un marché essentiel aux pêcheurs du Canada. On ne sait toutefois pas ce qu'il adviendra du MMPA sous le gouvernement Trump. Selon la directrice des campagnes pour les océans du Center for Biological Diversity, Miyoko Sakashita, toute décision qui signifie des reculs en matière de protection des espèces marines menacées pourrait, à terme, leur être fatale. C'était Trump à l'assaut d'une référence mondiale de la recherche scientifique, un texte d'Alexandre Shields, paru le 14 février 2025 dans Le Devoir.
Doug Ford et les questions autochtones, pragmatisme et calcul politique. Une chronique de Robert Falcon-Ouellette, parue le 5 février 2025, dans Espace autochtone. Alors que l'Ontario se prépare pour ses élections provinciales, le premier ministre Doug Ford et son gouvernement progressiste-conservateur sont en tête des sondages cherchant à obtenir une nouvelle majorité. Ces élections surviennent à un moment crucial, avec des électeurs ontariens se dirigeant vers les urnes juste avant les élections fédérales du printemps et avec un Donald Trump projetant une longue ombre sur le paysage politique. Le gouvernement de Doug Ford a longtemps été un modèle de pragmatisme politique, faisant juste assez pour éviter la controverse, sans offrir quelque chose de véritablement transformateur. Son approche des questions autochtones dans la province reflète cette même stratégie. Rester largement neutre, éviter les conflits majeurs et prendre des mesures symboliques sans action significative. La stratégie politique de Ford a été très calculée, car il reconnaît qu'attendre un changement de leadership fédéral limiterait sa capacité à tirer profit du climat politique actuel. Avec la grande impopularité de Justin Trudeau, Ford cherche à sécuriser une autre majorité avant qu'un nouveau leader libéral émerge et déplace potentiellement les vents politiques loin des conservateurs. Cependant, un domaine qui pourrait poser un défi à Ford dans un avenir proche est le bilan de son gouvernement concernant les peuples autochtones. Pas de mal, pas de gain. Depuis qu'il est entré en fonction en 2018, le gouvernement de Doug Ford a été accusé d'adopter une approche « pas de mal, pas de gain » concernant les questions autochtones. Plutôt que de poursuivre des réformes audacieuses ou des initiatives politiques qui aborderaient les problèmes systémiques auxquels sont confrontées les communautés autochtones en Ontario, le gouvernement de Ford a adopté une position prudente et mesurée. La marque de son approche a été des gestes symboliques, comme l'inclusion des langues autochtones à l'Assemblée législative de l'Ontario, mais sans action substantielle et révolutionnaire. Par exemple, en 2024, l'Assemblée a autorisé l'utilisation et la traduction des langues autochtones au Parlement grâce à l'engagement du député du NPD, Sol Mamakwa. Bien que cette décision ait été saluée par beaucoup comme une étape positive vers la reconnaissance de l'importance culturelle des langues autochtones, certains critiques estiment qu'il s'agit d'une action relativement superficielle. Les dirigeants et les défenseurs des droits autochtones soulignent souvent le manque de suivi concernant les changements politiques significatifs, tels que les droits fonciers, la réforme de la protection de l'enfance et les projets de développement des ressources touchant les communautés autochtones. Le développement des ressources et le cercle de feu. Un problème central dans la relation de Ford avec les communautés autochtones a été le développement des ressources, en particulier dans le Cercle de feu, dans le nord de la province. Bien que Ford ait poussé pour le développement rapide des ressources dans cette région, qui inclut des accords pour la construction de routes, son gouvernement a fait face à des résistances de la part des groupes autochtones qui estiment ne pas avoir été consultés de manière adéquate sur ces projets. Les leaders autochtones ont exprimé des inquiétudes concernant le manque de consultations significatives et l'absence de consentement libre, préalable et éclairé, un principe clé de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA. Le gouvernement de Ford s'est opposé à l'application totale de la DNUDPA en Ontario, allant même jusqu'à demander au gouvernement fédéral de ne pas adopter la déclaration à l'échelle nationale. Sa politique concernant la région du Cercle de feu semble en fait être une stratégie de diviser pour mieux régner, avec des accords conclus séparément avec les Premières Nations, mais sans un accord global réunissant toutes les communautés autour de la même table. Cela a conduit à des critiques selon lesquelles Ford utilise une approche fragmentée pour affaiblir le pouvoir collectif des peuples autochtones, ce qui détourne de l'objectif global de réconciliation et de reconnaissance des droits autochtones. Malgré ces critiques, le pragmatisme de Ford lui a permis de bien s'en sortir politiquement. Il a évité les pièges majeurs des politiques plus conflictuelles, restant à l'écart des affrontements de haut niveau avec les leaders autochtones, mais n'a pas pris d'action significative pour traiter les défis plus profonds et structurels auxquels sont confrontées les communautés autochtones en Ontario. Dans un environnement politique où de nombreux leaders hésitent à prendre des positions audacieuses, l'approche de Ford a été celle de l'inaction calculée, offrant un risque minimal, mais aussi une récompense limitée. Dans la Ring of Fire, les routes s'ouvrent. Ford trace son chemin sans que rien ne dévore. Pas de mal, pas de gain, juste une voie tracée, mais les voies autochtones restent souvent effacées. C'était Doug Ford et les questions autochtones, pragmatisme et calcul politique, une chronique de Robert Falcon-Ouellet, parue le 5 février 2025 dans Espace autochtone.